Radio Campus, il est 17h. Comment va se passer la rentrée des étudiants? Mais je ne suis pas devin, mais certains se penchent sur la question. C'est bien sûr la FAGE, qui est un syndicat, une fédération donc, d'étudiants, et qui va nous présenter un petit peu son étude. Et donc, on va accueillir une personne qui représente ce syndicat. Bonjour.
Bonjour.
Vous pouvez vous présenter?
Oui, tout à fait. Du coup, je m'appelle Aniel Alamnawar, je suis étudiante en soins infirmiers, mais surtout, je suis représentante en charge des affaires sociales à la FAGE. La FAGE qui est du coup la première organisation représentative des étudiants et des jeunes en France.
Voilà. Donc, vous avez, comme chaque année, fait une étude, c'est bien cela?
Tout à fait, du coup, cette année, en 2021, c'est notre 19e indicateur. Donc, ça fait 19 ans qu'on a la même méthodologie qui nous permet d'évaluer à la fois combien coûte la rentrée, donc les frais inhérents à l'entrée à l'université, mais aussi les frais de toute une année universitaire. Donc, c'est ce qu'on appelle notre fameux coût de la rentrée. Et cette année, il s'élève à 2392 euros.
Alors, cette somme, 2392, donc pour une année, c'est un peu comme ça que vous vous projetez?
Tout à fait. Donc, par exemple, pour les frais vraiment inhérents à l'entrée à l'université, donc que ce soit au niveau de la complémentaire santé qui est déboursée au mois de septembre, des frais d'inscription ou encore du matériel pédagogique, on s'élève à un taux qui est à 1163,92 €. Donc, c'est plus de 1000 euros pour entrer à l'université, dans les dépenses en tout cas de septembre. Et pour les frais de toute une année, on est à 1196, donc encore plus de 1000 euros pour payer que ce soit le loyer ou encore l'alimentation, ce qui reste extrêmement élevé, surtout après une crise sanitaire où les étudiants ont extrêmement souffert de cette crise sanitaire, mais aussi économique.
Alors, j'ai bien reçu votre information qui signale une augmentation de 1,32%. Est-ce qu'il y a une courbe sur 10 ans, par exemple, qui serait intéressante d'observer aussi?
Alors, ce qu'on va faire, c'est plutôt l'année prochaine, très honnêtement, puisqu'on sera sur notre 20e, donc ça fera 20 ans qu'on fera notre indicateur. Après, il faut savoir que malheureusement, depuis 19 ans, notre coût de la rentrée n'a jamais diminué. Et si cette année, on a une petite augmentation, parce que ça représente 1,32%, c'est pas quelque chose qui peut paraître exorbitant, c'est par la baisse des complémentaires santé. Et pourtant, elle s'élève encore à 311 euros. Donc, on alerte aussi sur ce qui se passe derrière les chiffres, puisque toute la pertinence de cet indicateur, c'est aussi qu'il s'entrecoupe avec nos remontées de terrain. Quand j'appelle remontées de terrain, c'est qu'on a 31 épiceries sociales et solidaires, qu'on appelle Agorae, qui accueillent du coup des étudiants en situation de précarité pour qu'ils aient accès à de l'alimentation à prix très très réduit. Et malheureusement, les chiffres reflètent le même constat qu'on a dans nos épiceries.
Mmh. Donc, en termes de dépenses, vous nous avez donc signalé cette somme de 2392 euros. Est-ce qu'en termes d'aide, il y a des choses qui évoluent également? Est-ce qu'il y a plus ou moins d'aide pour cette rentrée?
Eh ben, en fait, c'est tout le paradoxe de la situation étudiante et c'est aussi tout l'enjeu de notre coût de la rentrée. Au-delà de faire le constat, c'est aussi de faire des propositions et de mettre le doigt sur ce qui ne fonctionne pas, parce qu'on a eu quand même des aides, il ne faut pas le cacher, pendant la crise sanitaire. Malheureusement, c'était des aides que moi je qualifie souvent de pansements ou mises dans l'urgence, mais qui ne traitent pas le fond de la précarité étudiante qui, malheureusement, n'est pas apparue avec la crise sanitaire, mais qui a juste été exacerbée. Je vais prendre un exemple assez historique, c'est les fameuses bourses sur critères sociaux, les bourses universitaires, qui aujourd'hui sont une aide qui touche 700 000 étudiants à peu près, donc ce qui est déjà pas mal. Malheureusement, en l'état, elles laissent beaucoup d'étudiants sur le côté. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elles sont faites sous forme d'échelons, de paliers, et que du coup, on est face à des étudiants qui ont plein de situations où parfois ça varie de 100 euros, et pourtant les étudiants n'ont pas accès au premier échelon des bourses, qui est problématique parce que malheureusement, ils en auraient besoin. Donc nous, ce qu'on préconise à ce sujet, c'est de garder un système de bourses. Les bourses sont essentielles pour les étudiants, mais de le réformer, notamment en ayant quelque chose comme des jauges qui permettraient de s'adapter vraiment à nos 2,78 millions d'étudiants. Et pour cette rentrée, ce qu'on souhaite, nous, c'est une allocation de rentrée étudiante qui n'existe pas, qui serait d'un montant de 275 euros et tout simplement basé sur le même principe que l'allocation de rentrée scolaire, mais celle-ci s'arrête malheureusement à 18 ans.
Au niveau des entrées, des droits d'entrée à l'université, j'imagine que l'université ou les universités publiques sont relativement modestes en termes de coûts d'entrée. Est-ce qu'on avait, à un moment donné, on avait parlé de faire payer très très cher les étudiants étrangers hors Europe. Est-ce que ça s'est réalisé ou pas? Je sais qu'il y avait une protestation.
C'était le cadre d'un plan qui, ironiquement, s'appelait Bienvenue en France. Et l'objectif, c'était de faire donc, ce qu'on appelle des frais différenciés pour les étudiants internationaux et extra-communautaires, donc membres ou non de l'espace européen. Malheureusement, c'est une mesure sur laquelle nous, on s'oppose plutôt en conseil, puisque là, du coup, les étudiants sont représentés dans les différents conseils d'université et la FAGE et ses élus sont présents dans la majorité. Et dans ces conseils, on s'oppose automatiquement à ces frais différenciés parce que la mesure au niveau national est passée et que du coup, il faut la faire. On s'oppose, nous, systématiquement au niveau local. Donc malheureusement, on a des frais différenciés et c'est quelque chose d'extrêmement injuste et sur lequel nous, on proteste puisqu'en plus, c'est des étudiants qui sont souvent précaires, qu'on retrouve majoritairement dans nos épiceries sociales et solidaires parce que leurs bourses, ce qui ne touche pas les bourses sur les critères sociaux de la France, mais de leur pays de provenance sont souvent insuffisantes au vu du prix de la vie en France.
On peut avoir une idée des coûts de rentrée pour eux, enfin, si on ajoute donc ça au reste, est-ce qu'on peut dire que c'est important pour un budget d'étudiants étrangers?
Tout à fait. Alors pour des frais, pour faire le comparatif avec des étudiants dits français, on est sur 170 plus 92 cette année de contribution à vie étudiante, donc environ 162 euros. Et on est à plus de 2000 euros en licence et 4000 en master pour des étudiants internationaux.
Est-ce que pour autant, c'était le projet, hein, la France deviendrait plus compétitive peut-être par rapport à une image de, pas de luxe, hein, mais de qualité que ça pourrait donner, le fait de payer plus?
Eh bien, malheureusement, c'est toute la problématique qu'on souligne aussi dans notre coup de la rentrée. C'est-à-dire que pour être très concrète, un étudiant aujourd'hui qui ne peut pas manger, forcément, ça va avoir des répercussions sur son cursus universitaire et forcément dans le classement, si on raisonne de cette façon-là. Et plus généralement et plus socialement, c'est quand même inacceptable aujourd'hui qu'on ait 31 épiceries sociales et solidaires avec plus de 15 000 bénéficiaires partout dans la France et qu'on souhaite redorer l'image de la France au niveau de l'université alors qu'il y a très peu de budget social qui est correctement ou réellement investi dans la jeunesse. Et encore plus, c'est un plus gros problème dans l'enseignement supérieur aujourd'hui, où les universités souffrent du manque de financement.
Si on parle un peu des résidences universitaires, certaines ont été rénovées très joliment parfois. Est-ce que ça a aussi un impact en termes d'augmentation des coûts des loyers?
Alors justement, c'est très intéressant de faire un focus sur le logement, puisque ça représente donc cette année 551 euros en moyenne, et c'est 50% du budget pour un étudiant généralement. Donc la problématique du logement, c'est une vraie problématique dans la précarité étudiante, mais la problématique du logement, c'est une problématique sociétale en général, donc forcément les étudiants subissent ces répercussions. Et malheureusement, dans les rénovations qu'on a pu avoir, celles qui ont pu être faites, on en est satisfait, malheureusement c'est trop peu. Et au-delà des rénovations, c'est tous les plans de construction que nous on déplore, qui aujourd'hui sont en retard ou malheureusement beaucoup trop lents. Et du coup, par rapport à ça, nous, on dénonce et on souhaite qu'il y ait des mesures de suivi de ces plans de construction, parce que derrière, c'est des étudiants qui dorment malheureusement dans des tentes devant les universités, et c'est des fédérations comme la FAGE qui sont obligées de mettre en place des logements d'urgence. Donc c'est le lien entre des étudiants qui, au mois de septembre, n'ont toujours pas de logement, et des particuliers qui souhaitent, qui bénévolement accueillent maximum sur une durée d'un mois, des étudiants le temps qu'ils puissent faire sereinement leur recherche de logement.
Voilà, donc bien sûr, toutes ces aides et aussi ces rentrées d'argent, hein. Il y a des dépenses et des recettes pour les universités et aussi pour les services. Hein. Tout ça, ça part au départ, enfin, ça part d'un budget. Ces budgets sont votés à l'année moins 1, on va dire. On ne peut plus tellement intervenir à une rentrée.
Oui, c'est généralement dans ce qu'on appelle le PLF, donc le plan financier donc qu'on peut avoir sur l'université et des fois sur la vie étudiante en général. Donc nous, ce qu'on fait en tant qu'organisation représentative, on a en effet tout un travail de budget et d'application des réformes. Malheureusement, donc au-delà des financements, c'est aussi par exemple comme les bourses, où là, ça ne se joue pas uniquement dans ce genre de plan, mais tout au long de l'année. Et par exemple, la réforme des bourses sur critères sociaux, c'est depuis 2017 qu'elle est annoncée. Ça a été réévoqué lors de notre rendez-vous avec le président de la République au mois de mai, réaffirmé par le Premier ministre. Mais aujourd'hui, c'est aussi tout l'importance de nos coûts de la rentrée, c'est de dire que c'est bien les promesses, mais derrière, c'est des étudiants et qu'il faut que ce soit réellement mis en place et qu'on ait des mesures rapides, mais en profondeur et correctement, qui servent réellement à la lutte contre la précarité, parce que 250 € par-ci, par-là, ça n'aide pas malheureusement, et ce n'est pas résoudre le problème de la précarité.
Alors, c'est vrai que des études, ça coûte toujours un peu, parfois beaucoup, même certains dépensent énormément et s'engagent pour 5 ans, 10 ans avec des prêts. Est-ce que vous avez un retour sur... Après les études, comment on peut rembourser les prêts ? Est-ce que des étudiants ou ex-étudiants sont en grande difficulté sociale à cause de ça ?
Tout à fait. Alors, on a les prêts qui vont avoir des taux alors qui peuvent paraître minimes, mais ça reste quand même un emprunt. Et puis, on a les fameux prêts à rembourser une fois qu'on est diplômé, qui sont au final un boulet à la sortie des études. Plus l'étape d'avant, c'est généralement le salariat étudiant. Pour pallier, donc certains vont à la fois pour payer leurs prêts en même temps que leurs études se salarier, mais d'autres, avant d'en arriver au prêt, aident des étudiants salariés. Pour donner un chiffre, c'est quand même 46% des étudiants qui aujourd'hui se salarient, et une grande majorité pour tout simplement s'alimenter, donc c'est ce qu'on appelle du salariat alimentaire. Et sur cette thématique, justement, nous, on souhaite une réelle prise en compte de ces étudiants, ils existent, et qu'ils soient pris en compte dans des mesures pour les jeunes. Et on va plus loin, c'est-à-dire que le salariat, ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Alors attention à ce qu'on met derrière, c'est-à-dire que le salariat alimentaire, on le déplore, surtout dans des milieux précarisants, comme par exemple tout ce qui va être ubérisation, où là, malheureusement, les étudiants ne cotisent pas pour leur retraite. Mais nous, ce qu'on souhaite, c'est que ce salariat soit transformé et que ce soit, par exemple, permettre d'avoir des compétences, ce qui est souvent demandé à la sortie des études, du diplôme, de développer des compétences, des connaissances qui soient valorisées, pourquoi pas en crédit universitaire, en UE, ce qu'on appelle les unités d'enseignement. Et donc là, on interpelle à la fois les politiques publiques pour cette prise de conscience, mais aussi les universités pour accompagner ces étudiants-là et pour que ce ne soit pas du coup quelque chose d'alimentaire ou ayant un grand impact sur leur cursus universitaire, mais que ce soit plutôt un plus valorisable après le diplôme.
Il y a quelques années que le service civique a été mis en place. Est-ce que vous avez un retour sur cette mesure ? Est-ce que beaucoup d'étudiants s'intègrent à ces dispositifs ? On gagne bien sûr un peu d'argent, mais surtout on profite aussi pour vivre une expérience valorisée peut-être dans un CV ?
Oui, tout à fait. C'est ce qu'on appelle du coup le service national universitaire. Universitaire. Nous, là-dessus, c'est plutôt la forme qui est dérangeante, qui est très militaire et très rigide, alors qu'il y a toute forme d'engagement et justement qui pourrait avoir des valeurs à peu près similaires, qui peuvent être plus intéressantes par la forme. Aujourd'hui, c'est vrai que l'uniforme pour chacun et chacune, ce côté très rigide est quelque chose qui malheureusement nous embête un petit peu. On valorise plutôt par exemple les services civiques ou encore tout l'engagement associatif qui peut être fait, et notamment c'est ce qu'on demande quand je parlais du salariat par plus compétences. On demande également que ces modes d'engagement ou d'expérience soient valorisés dans un cursus universitaire, sur un CV, mais malheureusement il faut aussi que ça prenne une forme qui soit cohérente et qui laisse aussi la possibilité à chacun et chacune de s'y retrouver, plutôt qu'un cadre très strict imposé.
Voilà, j'imagine aussi que c'est un peu chronophage que de faire un service civique, et que tout cela, c'est peut-être au détriment du temps d'études, ou du moins de passer du temps sur les bancs de la fac.
Oui, alors à ce niveau-là, c'est, je pense, tout un travail qu'on a aussi à faire en tant que première organisation. La FAGE s'engage aussi pour tout ce qui est déconstruction, que ce soit autour des discriminations, mais aussi autour de tout ce qu'on peut mettre dans la course au diplôme, plutôt qu'à l'approche justement au développement de compétences et de réel attrait pour ce qu'on peut apprendre pour l'intellectuel et la culture. Et donc les services civiques, on a encore cette image un petit peu négative, un peu comme aussi la césure, on associe souvent ça à une année sabbatique, et malheureusement, c'est une année qui est très enrichissante pour le faire personnellement. Étant étudiante en soins infirmiers, c'est vrai qu'on peut dire que c'est un petit peu surprenant de, sur un cursus assez court de 3 ans, de faire une année de césure, et pourtant j'en sors extrêmement enrichie. C'est tout ce qui va être autour de la rigueur, de savoir s'organiser, de l'autonomie, et finalement c'est une expérience qui ne m'aura pas fait, en tout cas j'en suis assez sûre, perdre du temps, mais plutôt gagner de l'expérience et de la maturité qui sera toujours utile. Je le sais d'autant plus pour les services, hein, en soins infirmiers, on rencontre pas des choses toujours très sympathiques, et mine de rien, bah, travailler pendant un an sur les problématiques étudiantes telles que la précarité menstruelle ou encore la détresse psychologique des étudiants, et ben c'est quelque chose qui forcément sert un jour ou l'autre, qui n'est pas une perte de temps. Et c'est la même chose pour nos volontaires en service civique, par exemple, dans nos épiceries, qui au final apprennent le partage, apprennent aussi la gestion budgétaire. Et c'est une expérience qui finalement est tout autant utile que les bancs de la fac.
Être étudiant, c'est un statut un peu différent pour quelqu'un qui était lycéen auparavant. Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme conseil à ces élèves qui deviennent étudiants, et notamment comment entretenir encore la relation avec la famille, et notamment par rapport à la dépendance économique, comment ça fonctionne, notamment pour l'attribution des bourses, par exemple?
Oui, alors c'est une question très intéressante. C'est vrai que c'est un petit peu le grand pas, surtout après la majorité, généralement. Ce qu'il faut se dire, c'est que c'est pas une rupture, c'est une continuité. Ce que je conseillerais associativement et personnellement, c'est de ne pas se mettre de barrières personnelles ou culturelles, c'est-à-dire que tous les milieux peuvent être intéressants, aller chercher ce côté curiosité et l'envie d'apprendre qu'il faut garder, je pense, ce qui peut nourrir chacun et chacune dans son cursus. Et enfin, au niveau de la relation financière qu'on peut avoir avec la famille ou toute personne qui peuvent être avoir ce rôle-là, c'est peut-être de dire que à la fois la décohabitation et à la fois l'émancipation financière avec, par exemple, l'indépendance fiscale, ce n'est pas non plus une rupture. On peut être indépendant fiscalement parce que finalement c'est quelque chose qui nous correspond et qui, parce qu'on a envie de se gérer, et pourtant être en lien avec notre famille sans être totalement en rupture. Et en même temps, c'est aussi une possibilité pour ces étudiants-là qui sont exclus généralement du système quand ils sont en rupture familiale. Pour justement les demandes de bourse, eh ben, c'est exactement la même chose. Ça dépend du revenu fiscal de rattachement. Donc soit l'étudiant a son propre revenu fiscal parce qu'il a fait sa demande. C'est pareil, il faut déconstruire des clichés là-dessus. Ce qu'on fait généralement dans le réseau de la FAGE, c'est pas si compliqué la démarche. Alors ça peut faire peur et psychologiquement ça peut être compliqué, mais la démarche juridique n'est pas compliquée. Il faut se rendre, il y a des informations par exemple sur Service Public ou encore sur étudiant.gouv. Et sinon, c'est généralement le foyer de rattachement des parents. Et dans ces cas-là, il faut insérer les revenus à N-2, généralement, des parents.
Pour les jeunes donc, qui viennent d'avoir leur bac, là, qui vont entrer à l'université, pour eux, c'est un petit peu un mystère encore tout cela. Mmh. Et même les associations ou les syndicats étudiants ne connaissent pas trop. Qu'est-ce qu'on peut leur donner comme conseil?
Alors, si jamais il y en a certains ou certaines qui m'écoutent, je leur conseillerais de ne pas hésiter à contacter la FAGE, à regarder un petit peu ce qu'on fait sur les réseaux sociaux, et ne pas hésiter à nous envoyer un mail pour savoir quelle est la fédération. Donc, une fédération, c'est un regroupement d'associations. On en a à la fois de filières, donc par exemple qui vont représenter les étudiants en médecine ou les étudiants en STAPS, et on a aussi des fédérations de territoires. Donc généralement, là, on a pratiquement tous les territoires qui sont représentés. Donc que ce soit par exemple Grenoble, Lyon, Lille, ou encore dans le sud, on peut avoir Marseille, Nice, Bordeaux, Toulouse. Et du coup, bah, il faut pas hésiter parce que, mine de rien, on connaît pas mal de petits tips, comme on dit, que ce soit au niveau social, que ce soit au niveau académique. On est très engagé là-dessus, et comme on est première organisation, et ben on aura toujours des conseils, on apportera toujours de l'aide. Et si jamais c'est pas le cas, on n'a pas la réponse pour une certaine situation, on redirigera vers des personnes qui sont compétentes. C'est aussi comme ça qu'on accompagne les 2,78 millions d'étudiants et étudiantes chaque année.
Alors, pour les étudiants qui ont passé une année Covid, là, et voire presque une année et demie, et qui vont aborder cette nouvelle année, est-ce qu'il y a des nouveautés à prendre en compte?
Alors, c'est vrai que ça va être nouveau. C'est peut-être comme s'ils étaient entrants et pourtant, ils ont déjà fait une année. Il n'y a pas forcément de nouveautés, à part malheureusement les règles sanitaires et l'actualité qui est quand même mouvementée ces derniers temps. Sinon, à part essayer de se réapproprier les relations sociales, parce que de rien un an avec un fort isolement dans la population étudiante et la population jeune, c'est pas forcément simple. C'est y aller à son rythme, hein. On n'est pas obligé du coup de participer à tous les événements qu'on croise, mais c'est se dire qu'on va faire un événement, par exemple un festival musical ou une soirée à thème pour redécouvrir aussi ce qu'on peut faire, mais c'est aussi ne pas hésiter à investir tout ce qui va être tutorat, tout ce qui va être aide par les pairs et association. Pourquoi pas aider, on a toujours besoin de bénévoles dans nos épiceries sociales et solidaires, ou même au-delà d'être de l'aide alimentaire, c'est des espaces d'échange et c'est toujours très intéressant. Il y a des échanges culturels, sociologiques, il y a des échanges sur vraiment tout. Donc, pas hésiter aussi à juste passer, voir, et puis se dire que c'est à chacun et chacune de s'approprier l'université maintenant qu'ils y sont et qu'il y a des...
Alors, les universités proposent parfois hein, des activités culturelles et des spectacles, pourquoi pas. Et aussi, les villes universitaires sont en général assez riches en propositions. Est-ce que vous avez des possibilités d'accéder de manière, j'allais dire privilégiée d'une certaine manière, en tant qu'étudiant, à ces lieux culturels ?
Oui, tout à fait. Je vais prendre un exemple sur Lyon, si jamais il y en a qui vont aller à Lyon. On a notre fédération qui s'appelle Gaélis, qui organise à peu près au mois de novembre, histoire que tout le monde s'installe tranquillement, ce qu'on appelle donc une semaine à thème, où il y a par exemple des visites de la ville, des ateliers de couture, des ateliers de yoga, de bien-être. Et généralement, c'est en lien avec des acteurs et des actrices de la ville, de la métropole, et ça permet, les visites culturelles de découvrir Lyon avec d'autres personnes et les petits lieux qui peuvent être sympas, et donc de vraiment profiter de son année ou de ses années universitaires. Donc ça s'appelle Bouche du Canap, si je ne dis pas de bêtises, et ça permet du coup de découvrir et de sortir un petit peu de chez soi et de son petit rythme qui s'installe universitaire.
Voilà, on peut aussi conseiller aux étudiants de voir sur le site de leur université les propositions culturelles qui existent, qui sont en général très intéressantes et qui apportent beaucoup de réflexion aussi. Hein. Je pense que ce sont des lieux à découvrir assez vite.
Tout à fait, les universités proposent aussi des expositions. Enfin, il y a pas mal la vie étudiante est de plus en plus dynamisée et valorisée dans les universités, donc il ne faut pas hésiter à aller un petit peu chercher sur des sites internet.
Voilà, et bien un grand merci pour votre intervention. On va rappeler peut-être le site web de la FAGE où je pense que toutes les informations sont indiquées.
Eh bien écoutez, il faut taper la FAGE sur internet, donc FAGE. Et sinon, en cas de problèmes sociaux ou académiques, ou tout problème, n'hésitez pas à envoyer un mail sur mesdroits@fage.org et tout en minuscules.
Voilà, fage.org. Donc, merci pour tout et bonne rentrée à toutes et à tous.
Au revoir.
Radio Campus, il est 17h.